Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire,
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Et je compte bien le découvrir.
Fini la rigolade.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu, j'en ai une.
Cinérama.
Ce nom, je n'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème.
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial.
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi.
Cinérama, c'est une émission sur le cinéma, évidemment. Ça dure une demi-heure, c'est hebdomadaire. Et forcément, eh bien, on voit des films qui sortent sur les écrans. On ne voit pas tous les films, par exemple. Il y a des films qui sont très attendus qu'on n'aura pas vus. C'est Monsieur Aznavour, parmi les films qui sont sur les écrans depuis le 23 octobre. 4-0 de Monsieur Otaniente, bah, ça, on a évité. Et puis Transformers, le commencement, ça aussi, on ne l'a pas vu, mais on a vu bien d'autres choses. Et notamment, toi, tu as vu... Un film d'animation, Sophia.
Oui, un film qui est en salle depuis le 16 octobre. Il s'agit de Sauvage, le dernier film de Claude Barras.
Et puis moi, j'ai vu un film très très modeste. C'était sans doute le film le plus modeste de la compétition cannoise cette année, 3 km jusqu'à la fin du monde, de Emmanuel Parvou. Et c'est un film roumain. On aura l'occasion d'écouter le réalisateur, puisqu'il était présent en conférence de presse à Cannes. Et c'est parce qu'on va écouter le réalisateur qu'on n'aura pas le temps de jouer aujourd'hui un blind test sonore. Ça ne va pas être possible. Sinon, nous aurions pu jouer, par exemple, bien sur la filmographie de John Woo, puisque nous allons parler eh bien, de son dernier long métrage, The Killer. Et puis Manu va nous parler de Fario, film français, mais nous allons débuter avec Carla et moi, les névroses familiales d'un juif new-yorkais. C'est Cinérama.
Dites-le.
Cinérama.
C'est très clair.
Carla et moi rejouent hein, sur un mode décalé et indé hein, la partition nostalgique du classique Harold et Maude hein, de Al Ashby, hein, soit la rencontre peu orthodoxe de Ben et Carla. Alors lui est chanteur de synagogue qui a perdu sa voix depuis le décès de sa femme. Sa vie de dépressif, il faut le dire, est organisée entre les rendez-vous galants foireux organisés par sa mère et son activité religieuse pour préparer les enfants à leur bar mitzav. Alors elle est une vieille dame excentrique, hein, coupée du monde. Elle était l'ancienne professeure de Ben hein, quand il était au collège. Un soir, ils se rencontrent dans un bar. Carla le sollicite pour préparer sa communion. Se noue alors entre eux une relation complice et plus si affinité. Alors, sur un sujet encore tabou, du moins difficile à accepter encore aujourd'hui, l'idylle amoureuse entre une vieille femme de 75 ans et un homme plus jeune, hein, de au moins 25 ans, le film détonne aussi par sa forme inventive et ingrate, heurtée par son montage syncopé et ses images granuleuses, ne mettant pas toujours en valeur les comédiens, surtout en ce qui concerne les gros plans sur les visages. Le directeur de la photographie, d'ailleurs, n'est autre que Shin Price William, hein, réalisateur également du très étrange The Sweet East, sorti en début d'année. Il est aussi chef opérateur attitré des frères Safdie, alors tourné en 16 mm, en pellicule donc. Carla et moi est une sorte de comédie romantique touchante et subversive, sans forcer le trait, sur fond de relations familiales contrariées et de judaïsme.
Give me your hand and I'll give you mine. Follow me and my bottle of wine. And we'll dance 'neath the stars. Dance 'neath the stars.
Le scénario hein, qui mélange les tons et les genres hein, a été en partie improvisé selon une méthode proche de ce qu'a pu faire par le passé John Cassavetes. Cela se ressent pour le meilleur et pour le pire. Alors le pire, j'exagère, hein, disons pour certaines séquences flottantes, hein, tirant un peu à la ligne. Pour le meilleur, lors du repas final notamment, drôle, poignant et très cringe au final, sommet tragicomique de ce petit film d'auteur qui retrouve parfois l'humour caustique des premiers Woody Allen, ce qui n'est pas un mince compliment. Le cinéaste Nathan Silver, hein, qui en est à son 9e long métrage, s'est entouré d'une troupe de comédiens absolument fantastiques. Échappé de l'univers de Wes Anderson, Jason Schwartzman amène le côté triste et lunaire à son personnage, mais il faut surtout saluer la performance démente de la revenante Carol Kane, actrice oubliée depuis ses grands rôles des années 70, hein, comme dans le génial Mafoukej de Karen Arthur ou Annie Hall. D'ailleurs, Elle ressemble, et je dis ça sans méchanceté ni ironie, hein, à Woody Allen avec une perruque. Elle apporte une folie unique à son personnage. Rien que pour elle, Carla et moi méritent le déplacement. Bref, un petit film intimiste, plein de charme, qui rappelle autant la screwball comedy des années 40 que certains films de Fassbinder, dont Tout le monde s'appelle Ali, est un peu la référence explicite du réalisateur. And you finally see I make you happy. This is a fantasy, it's true. Let us giggle and look at the lake. Hope I'll see that your smile ain't fake. Life is a dream.
Carla et moi, de Nathan Silver, est en salle depuis le 23 octobre. Après Ma vie de courgette, Claude Barras nous emmène à Bornéo. Nous parlons de Sauvage.
J'ai des choses importantes à vous dire.
This is Cinerama.
Je vous adore. Vous êtes la joie de mon cœur.
Le pauvre. Avec mon papa, on va bien s'occuper de toi.
Et oui, Sauvage est le deuxième film de Claude Barras, réalisateur du très remarqué Ma vie de courgette en 2016, qui avait plus qu'emballé critiques, spectateurs et professionnels, avec à la clé le prix du public au Festival d'animation d'Annecy, deux Césars à Cannes et même une nomination aux Oscars. 8 années se sont écoulées depuis, car pour ce type d'animation, hein, qu'il faut modeler de toutes pièces, un temps long est évidemment indispensable à la facture du film. Du temps pour façonner ses marionnettes en pâte à modeler, doter leurs yeux immenses de toute leur expressivité, mais aussi car c'est ce que réclame la technique d'animation qu'est le stop motion. Pour donner vie aux marionnettes, grâce à cette technique, Barras a mobilisé 5 équipes qui ont travaillé quotidiennement pendant des mois, capturant à peine quelques secondes de film chaque jour. Présenté en séance spéciale à Cannes cette année, Claude Barras n'a pas manqué l'exercice du deuxième film avec Sauvage. Il propose un sublime conte écologique capable de parler et d'émouvoir les jeunes et moins jeunes publics.
Tu pourrais dire bonjour.
Salut.
C'est le père de ta mère, ton grand-père. Et lui, c'est ton cousin.
Bonjour, cousine.
Oh, tu viens d'une famille sauvage.
Tu me fous la honte, là.
Zélaï, reviens, je m'excuse.
Vous êtes arrivés à destination.
Léo, il y a quelqu'un?
Ainsi, Claude Barras nous emmène aux abords d'une vaste forêt tropicale sur l'île de Bornéo, 4e plus grande île du monde, riche en biodiversité et source de subsistance pour des millions d'habitants, dont 1 million d'indigènes installés dans ces forêts. C'est donc là, dans ce cadre incroyable, qu'une petite fille du nom de Keria habite. Elle vit en ville, seule, avec son père, et recueille au début du film un bébé orang-outan, orphelin, trouvé dans la plantation de palmiers à huile d'une compagnie multinationale dans laquelle travaille son père. La jeune fille va peu à peu être amenée à renouer avec ses origines autochtones, l'histoire de ses ancêtres, de sa famille et la nature, pour enfin lutter avec son cousin Sélaï contre la destruction de sa forêt ancestrale menacée par l'avarice dévastatrice des puissants.
Sélaï, je crois qu'on a un petit problème là.
Ah lui c'est rien, je vais lui dire qu'il doit se pousser un peu. On va dormir ici.
Vous, vous prenez l'argent, nous, on coupe les arbres.
L'argent ne se mange pas.
Le scénario est aussi impeccable que la technique et c'est avec beaucoup de brio que Barras délivre son message. L'expérience sensorielle de Sauvage est tout simplement captivante. La pâte à modeler est exploitée avec une minutie rare, notamment pour représenter la luxuriance de la forêt tropicale. Chaque feuillage épais est méticuleusement découpé, chaque racine et tronc semble être témoin muet de la lutte de Keria et Sélaï. Même la pluie et les cascades sont animées avec une précision exceptionnelle, ce qui n'est pas forcément évident à transposer avec cette matière. Ces détails renforce l'immersion tout en donnant une dimension presque tangible à la nature, malgré la matérialité brute de la pâte et aussi grâce à elle. Les personnages eux-mêmes, avec leurs regards expressifs et leurs postures corporelles, rivalisent d'émotions avec les plus grands de l'Actor Studio. L'univers sonore est quant à lui habité par des voix familières, comme celle de Laetitia Doge, compatriote du cinéaste helvète, de Benoît Poulvord ou encore de Gaël Faye, qui font partie d'un paysage auditif très riche, où même la langue de la communauté autochtone autochtone Penan, non traduite, hein, nous immerge dans la culture indigène. Additionné des bruitages de la vie de la forêt, une véritable symphonie sensorielle est composée. On relève également l'utilisation intelligente de hors-champ et de la lumière, remarquable, hein, parfois proche de l'esthétique d'Avatar, hein, de James Cameron, dans les scènes de nuit, surtout, qui concourent à créer un univers magistral et magique.
Ça, c'est ma mère.
Tu as trouvé le chemin, cherche la lumière.
C'est dingue. Putain, tu vas voir. La lampe de poche des nomades.
Tu penses que toute la forêt va disparaître ?
Le réalisateur s'est inspiré de l'activiste écologiste suisse Bruno Manzer, disparu en 2000 à Bornéo dans des conditions troubles, et de son combat pour la préservation des forêts de Bornéo, un engagement personnel qui se reflète dans ce film. Porté par l'urgence écologique, il se veut un appel à éveiller les consciences des jeunes générations. Keria, par son geste moderne et pacifique de dénonciation via les réseaux sociaux, montre que la technologie aussi peut être un outil de résistance active. Le message est clair, hein, nous devons prendre nos responsabilités, même à travers des gestes simples comme notre consommation quotidienne. Le film incite chacun de nous à réfléchir sur nos propres actions face à des catastrophes écologiques globales, hein, comme la déforestation, situation a priori éloignée de nous en termes géographiques et pourtant si proche en termes de causes et de conséquences écologiques. Un film visuellement époustouflant et profondément engagé où Claude Barrás allie poésie, technique et message écologique dans une œuvre déchirante qui ne manque pas de toucher toutes les générations.
Et quand tu dis toutes les générations, c'est à partir de quel âge à peu près ?
Alors, à partir de 6 ans,
six
il
ans.
Est parfaitement intelligible. Et puis, moi, il m'a tiré des larmes alors que j'ai passé les 30 années.
Beaucoup de révélations. Sauvage est en salle depuis le 16 octobre, hein, déjà. Eh oui. Il faut tout faire pour cacher une agression homophobe dans un petit village de Roumanie. Nous parlons de 3 km jusqu'à la fin du monde.
Avec vous, j'ai du travail soigné.
Cinérama.
Et ça, c'est clair.
C'était probablement le film le plus modeste de la compétition du Festival de Cannes cette année. À 3 km de la fin du monde d'Emmanuel Parvou, l'est modeste, hein, autant dans la thématique qu'il développe que sa mise en scène et les moyens qui sont mis à l'œuvre. Avec ce film, nous voilà emmenés dans un petit village roumain hors du temps, sur les bords du Danube, près de l'endroit où il se jette dans la mer Noire. Alors c'est une zone peu peuplée, seulement accessible en bateau. Alors c'est je dirais, semblable à notre Camargue bombardée de moustiques. La première image montre 2 jeunes garçons qui sont sur une plage au coucher du soleil. Et le dernier plan, excusez-moi, hein, je vous en parle, montre un de ces jeunes hommes, Adi, qui file à toute berzingue sur un bateau. Il n'a pas d'autre issue que la fuite. Entre ces 2 moments, c'est le drame. Un soir, Adi est passé à tabac parce qu'il est soupçonné d'être homosexuel. Alors sans doute, ses agresseurs ont-ils vu le timide baiser qu'il a donné à un vacancier. De ces agressions, nous ne verrons rien. L'ellipse est de mise, nous verrons juste les stigmates, le visage tuméfié du jeune homme qui explique à ses parents qu'il a été agressé, mais se cache bien de révéler pourquoi. Alors cela mérite une enquête, très vite. Eh bien, si celle-ci s'oriente d'abord vers un tabassage pour un vol, elle va ensuite montrer que les 2 agresseurs, qui sont les fistons d'un homme influent du village, qui sait comment faire taire les uns et faire parler les autres, eh bien, n'en voulaient pas au portable de la victime, mais à ses orientations sexuelles. L'affaire devient plus sérieuse, le père de l'adolescent qui voulait la justice ne veut pas l'ébruiter. Et contre l'homosexualité qui est alors considérée comme une maladie ou une atteinte maligne, hein, il est possible de faire intervenir le prêtre pour un exorcisme. Ce dernier ne s'en prive pas, il n'y a plus d'amour pour le fils, juste la honte et l'incompréhension. Et peu à peu, eh bien, le village devient une prison pour la victime qui cherche un moyen de filer. Un petit clin d'œil à tous nos auditeurs roumains. Le parti pris du réalisateur est de ne pas épouser le point de vue de l'adolescent, mais de plutôt s'attarder sur comment les parties prenantes veulent étouffer l'affaire. L'irruption des services sociaux venus de la grande ville nous laisse croire que le réalisateur veut nous imposer une vision de la ville extravertie et progressiste, en opposition au village obscurantiste et refermé sur lui-même. Alors il y a un peu de ça, même si le propos est plus universel. Ce qui l'intéresse davantage, ce sont les turpitudes des hommes et femmes de ce village, comment ils gouvernent leur vie, en veillant à leurs intérêts et sondant ceux-ci. Il y a l'homosexualité qu'il faut taire, l'importance de la religion, l'envie de ne rien remuer dans ce tranquille village qui accueille quelques touristes.
Ce ți-au făcut?
M-au legat.
Oh, ne ferește, du-te la poliție, ești nebun.
La violence qui surgit de temps à autre, passant par l'enfermement, est sans cesse mise en balance avec le lieu même où le film a été tourné, soit ce village lointain, entouré d'eau et de végétation, battu par les vents et irradié de soleil. Jusqu'à la fin, l'issue est incertaine pour la victime. C'est ainsi que le réalisateur roumain conserve tout au long du film une tension que les images viennent adoucir. À 3 km de la fin du monde est un film finalement doux, délicat, modeste, comme je l'ai indiqué en introduction, et d'une très belle maîtrise. Et on va écouter Emmanuel Parvou, qui était présent à Cannes, puisqu'il était en compétition au festival, mais il n'a rien obtenu là-bas.
Adi.
Nous avions vraiment besoin que cette histoire soit situé dans cette région pour de nombreuses raisons. Parce que d'abord, on ne peut aller dans cette région que par bateau, on ne peut pas y aller en voiture. C'est une région très éloignée.
Elle
se trouve à 3 km avant la fin de la Terre. C'est là où commence l'eau, commence la rivière, et il y a une zone militaire inaccessible, et ensuite on a l'impression qu'on arrive à la fin du monde. L'été, dans ce village, eh bien, pendant 9 mois, ce village est complètement isolé. Si le Danube gèle, on approvisionne ces villages en hélicoptère. On leur amène du pain, on leur amène du sucre, etc., par hélicoptère, jusqu'à ce que le Danube dégèle. Mais 3 mois par an, l'été, c'est l'endroit le plus cool qui soit, c'est notamment sur la côte, sur les plages. Tout le monde veut aller là-bas. Donc il y a un mélange d'endroits extrêmement reculés, où on vit comme il y a 100 ans, pendant 9 mois, et pendant 3 mois, c'est l'endroit le plus à la mode qui soit. C'est un mélange que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur la mer Noire.
Wat weet hij voor je broer? Jammer dat hem krediet heeft. Als ik hem niet vaar.
Hoe zou je maar zo Sofie bij je zaken doen?
Wat doe je dan wanneer je last die boek voor beskik op staat?
Il y a dans ce film une petite famille et puis toute la société qu'il y a autour. Et ce que nous avons voulu faire, c'est de montrer un point de vue avec beaucoup de distance, le point de vue que l'on peut porter sur une petite famille. Et puis, il y a la société qui est représentée par le policier, par exemple. Il y a le prêtre aussi qui représente la religion. Et dans notre pays, il y a une grande confusion concernant la différence entre la religion et la foi. Ça, c'est une chose dont on doit discuter.
It was a big subject in our rural areas.
Et toutes ces questions-là sont abordées dans les zones rurales en Roumanie. Et puis il y a plus l'épidémie. Il y a aussi la question de la 5G, les antennes de 5G. Bien sûr, un film ne va pas changer le monde, un livre non plus. Mais au moins, un film peut soulever des questions, et beaucoup de questions. Nous avons observé quelque chose dans un micro-univers qui peut s'étendre à toute la société.
Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ils m'ont légat.
Oh, ne ferește, du-te la poliție, ești nebun. Dar eu spus să stai în casă, tu de ce pleci?
Îmi tăcesc la închisoare.
Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans cette prise, quand Adi quitte sa chambre pour toujours, il y a deux choses à gauche et à droite. Il y a le symbole religieux et il y a le poster d'un groupe de musique. Et si vous associez tous ces symboles, on a l'impression que le poster, c'est lui. Et on a l'impression que le poster vous regarde. Et donc, on cherchait à dire, ça peut vous arriver à vous aussi. C'est pour ça qu'il nous regarde dans les yeux.
And you compress the poster on the wall,
si, donc vous prenez le cas de ce poster et son regard, vous arrivez à cette conclusion, ça peut m'arriver aussi.
Dacă vorbește fitul, nu-i un dracu cu toții, și eu, și tu, și aia care l-au bătut, și popa, toată lumea.
C'était Emmanuel Parvoux, le réalisateur de « À 3 km de la fin du monde », un film qui était en compétition à Cannes et qui est maintenant sur les écrans. Les tweets du Doubs ont un drôle de comportement. Nous parlons de Fario.
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
This is Cinerama.
C'est vrai, oui ou non?
Trop contente de te revoir.
T'es beau, mon fils.
T'es rentré vendre tes terrains, du coup?
Je suis passé devant le chantier tout à l'heure, là, c'est impressionnant.
Ils ont dit qu'ils creusaient très profond à l'école. J'espère que personne tombera dans le trou.
Qu'est-ce qu'une fario? Eh bien, il s'agit d'une truite de rivière, poisson qui constitue donc un des arcs narratifs de ce drôle de film inabouti, mais plutôt attachant, projet personnel au long cours démarré il y a plus de 6 ans par Lucille Prost, qui signe donc son premier long métrage. Les premières images nous transportent à Berlin, dans les milieux festifs étudiants, lieu où circulent drogue, sexe et rock'n'roll, ou électro, hein, selon les bons vieux clichés. Et on se dit au départ, nous voilà partis pour un teen movie moderne et branché, dans la lignée de certains films d'auteurs pour festival. On a tout faux. On quitte l'Allemagne au bout de 5 minutes avec son personnage central, le peu sympathique Léo, jeune ingénieur brillant et fêtard qui rentre en France dans son village natal du Doubs, cette contrée mystérieuse et reculée où personne ne met les pieds intentionnellement si on n'a pas de famille. Alors ce qui n'est pas le cas de Léo, donc, qui revient vendre les terrains agricoles de son père décédé à une entreprise de forage de métaux rares. Sur place, il retrouve sa mère, sa petite sœur, ses potes et son cousin en désaccord avec le projet de mine. Alors qu'il est venu régler au plus vite ses histoires de paperasse pour repartir d'où il vient, Léo observe d'étranges comportements chez les farios. Il se lance dans une enquête qui tourne à l'obsession, au point que le spectateur se demande si tout cela est bien réel, si le jeune homme ne commence pas à perdre la tête, hein, ou s'il ne s'agit pas d'un simple prétexte pour rester sur place, incapable dès lors de repartir.
Vous savez ce qu'on fait avec ces métaux rares? Des smartphones, des ordinateurs, des voitures électriques?
Ouais, je suis ingénieur. Ça pollue quand même pas mal d'extraire tous ces métaux.
C'est des trous de bite, franchement, c'est la ruée vers l'or, là, n'importe quoi.
Vous avez remarqué des choses bizarres avec les truites en ce moment?
Des truites, tu sais, des animaux très pudiques.
Je viens de voir la grognasse de la mairie, là. Elle m'a dit que tu voulais plus vendre tes terrains.
Il y a plein d'agriculteurs qui sont concernés, hein. Ils vont perdre leurs terres.
Tu sais ce qu'ils attendent de nous? Qu'on déverse du purin devant la mairie comme des bouseux, là. Je leur ferai pas ce plaisir.
Pendant une bonne moitié du métrage, hein, Lucille Prost, hein, entretient un troupe savamment orchestré, cumulant les fausses pistes, les orientations d'un récit sibyllin, thriller écolo, comédie familiale, film social, se télescope sans que l'on sache très bien où l'on nous emmène. Ce qui n'est pas désagréable. Au contraire, la cinéaste maintient l'attention grâce à ses ruptures de ton, ses bifurcations, ses quelques audaces narratives. Déjà, elle filme un personnage mutique, pas très agréable, méprisant et déraciné, qui ne sent pas être à la bonne place. Dans ce rôle, pas loin d'être antipathique, Finnegan Oldfield très bien, le regard un peu lointain et le verbe tranchant. Sa reconnexion avec les autres et son environnement passe par un moyen détourné, sa recherche de la vérité sur une possible mutation des truites empoisonnées par la rivière. Alors l'enquête devient alors un prétexte inconscient pour le jeune homme d'affronter le passé et le présent. La singularité du sujet se dilue malheureusement progressivement dès lors que les intentions deviennent trop évidentes. Fario tombe alors dans les travers du jeune cinéma français, laissant en friche la partie thriller traitée avec beaucoup trop de désinvolture pour se recentrer sur les rapport convenu entre les personnages.
Je pense que les truites mutent, toutes les saloperies qui sont déversées dans la rivière par le chantier, ça les modifie.
Les truites, c'était des énergies négatives ou positives?
Je les ai vues, elles étaient là devant moi, elles m'ont foncé dessus. Elles tournaient autour de moi, elles essayaient de me dire quelque chose.
Alors intéressant et original, hein, le film ne tient malheureusement pas toutes ses promesses, très décevant dans sa résolution, mais il s'agit d'un premier film avec ses défauts et ses qualités, donc on restera indulgent vis-à-vis du produit qui est tout à fait regardable.
Fario de Lucy Prost, qui n'a peut-être pas de rapport avec le coureur automobile, est en salle depuis le 23 octobre. Remake du film de 1989 par un certain John Woo. Voici The Killer par le même John Woo.
Pardonnez-moi, mais la situation est très délicate.
Cinérama.
Ce film est une catastrophe.
Certains gars vous considèrent comme une légende.
Ah oui? Et qu'est-ce qu'il raconte?
Il vous surnomme la reine des morts.
Le
Le cas de The Killer 2024 est particulier. Alors on pourrait bien sûr pester contre un énième remake inutile, calculateur et désincarné qui vient polluer nos écrans, mais on sait que le projet de remake de The Killer par John Woo lui-même était en chantier depuis très longtemps. Alors une version envisagée mettait même en scène sa fille, Angeles, qui est présente dans la version finale, mais dans un tout petit rôle. Alors tout ça pour dire que l'appréhension de cette relecture était forcément négative, car il est toujours casse-gueule de s'attaquer à un chef-d'œuvre absolu, même si on en est l'auteur, mais pas dénué d'intérêt car son propre réalisateur a longtemps travaillé pour lui construire de ses propres mains une réactualisation. Mais au fait, c'est quoi The Killer ?
Pourquoi vous avez épargné cette fille ?
Question simple, réponse compliquée.
Le contrat était clair, il fallait l'éliminer aussi. Tu viens de trahir l'homme le plus dangereux de Paris. Faites disparaître les témoins.
The Killer, comme son nom l'indique, c'est l'histoire d'un tueur à gages. Lors d'une mission, il blesse une chanteuse qui devient aveugle et pris de remords, car il ne tue ou blesse que des méchants, c'est dans son code de l'honneur. Ce tueur donc va essayer de se racheter en offrant un avenir à sa victime. Sauf que, bien évidemment, les commanditaires des contrats de ce tueur n'apprécient pas qu'un témoin reste en vie et décide d'éliminer le nouveau duo. Duo qui devient trio lorsqu'un policier en charge de l'affaire découvre que ce mystérieux tueur est bien plus complexe que ce à quoi il s'attendait. Lui ressemble bien plus que ce qu'il pensait et va finir par s'allier à lui pour combattre la menace criminelle décidée à transformer la ville en bain de sang. Alors dans les grandes lignes, tout est ici la même chose. De 1989 à 2024, il y a toujours les colombes emblématiques, les réflexions mélancoliques sur les bancs d'église, des gunfights épiques et sanglants et l'amour que porte John Woo à l'univers si particulier de Jean-Pierre Melville dans Le Samouraï.
Donc vous êtes un bon flic.
Ouais, grave. Et vous, vous êtes une tueuse ? Vous essayez de vous donner bonne conscience pour une fois ?
J'ai conscience que je suis douée dans mon domaine.
Laisse tomber cette fille, ou il va lancer tous les tueurs de la ville à tes trousses.
The Killer 2024 ne doit pas forcément tout à l'original. C'est même un mélange de plusieurs influences, très souvent françaises. Si on ne sait pas précisément si ces références appartiennent à John Woo ou à ses scénaristes, dont d'ailleurs le très capable Brian Helgeland, on peut facétieusement deviner lesquelles correspondent à telle vision. Il y a d'abord celle de Woo, qui pousse son amour de Melville jusqu'à affuber sa tueuse d'un chapeau et d'un impair, exactement comme Alain Delon dans Le Samouraï. Il y a ensuite sa manière de lui donner une mythologie, de la baptiser en ange de la mort et de la filmer telle qu'elle sur les toits de Paris, ou plutôt comme Musidora en Irma Vep dans Les Vampires de Louis Feuillade. On remarque également que la partition de Marco Beltrami, même si elle est étonnamment plate lors des scènes d'action, essaie de faire de l'œil aux mélodies de François de Roubaix, toujours en référence au samouraï de Melville. Le lieu de l'action, Paris, est aussi l'occasion d'embrasser un peu plus ce même hommage et ramène John Woo en France après Les Associés en 91, également un clin d'œil à son amour du cinéma de François Truffaut. Ce qui est peut-être plus imputable qu'aux scénaristes, c'est la transformation de leur tueuse en Nikita, ou la femme Nikita aux États-Unis, car on l'oublie un peu aujourd'hui, le film de Luc Besson fut un immense succès là-bas, au point d'inspirer un remake avec Bridget Fonda et une série télé. Alors en inventant un passé à cette tueuse, on lui découvre beaucoup de similitudes avec la création du papa du Grand Bleu.
Lâchez immédiatement ce flingue.
Combien il vous reste de balles à votre avis ?
Malheureusement, passé ces références qui prouvent bien qu'on est toujours dans un film du génial chinois, mais il n'y a plus grand-chose à retenir de cette entreprise forcément suicidaire. À 77 ans, cela fait quelque temps que Woo paraît diminuer et même si son retour sur la scène internationale fait plaisir après un fructueux retour aux sources chinois pendant 20 ans après le semi-échec de Paycheck, on ne peut pas vraiment s'enthousiasmer face au manque de charisme d'un casting en grande partie à la ramasse. Alors mention spéciale à Omar Sy qui joue un poil mieux en anglais et à Eric Cantona qui ne joue toujours pas mieux que dans l'inénarrable Mookie d'Hervé Palud. La photographie est-elle aussi extrêmement lisse à l'image des innombrables, oubliables et interchangeables films et films d'action qui n'ont de film que le nom et qui nourrissent inlassablement l'ogre connu sous le nom de plateforme. Car à la base, ce The Killer a été produit par Peacock. Un triste mais attendu ratage malgré un scénario pas si mal mais à mille lieues du film qui traumatisa en son temps l'Occident et acheva de transformer son réalisateur en icône du cinéma mondial.
Si vous voulez retenter The Killer de John Woo, il est en salle depuis le 23 octobre.
Je vous trouve si nerveux, quelque chose ne va pas ?
Terminé pour aujourd'hui.
Pas si vite.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé.
Ça ne me dérange pas le moins du monde.
Je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire.
Il lui arrive quoi, elle ?
Au revoir.
Pardon ?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir.
De vous revoir.
De vous revoir.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Ça ne servirait à rien de le nier. Le nier.
Merci.
La semaine prochaine, Sophia, bien toi, tu nous parleras de la Palme d'Or.
Palme d'Or, à Cannes, exactement. Je parlerai d'Anora, de Sean Baker.
Et ça nous donnera l'occasion de l'écouter, puisqu'il était présent en conférence de presse à Cannes. Et puis, on aura aussi l'occasion d'écouter Reda Kateb, parce que je vais pouvoir le rencontrer. Et nous parlerons de son premier long métrage, qui s'intitule « Sur un fil ». À la semaine prochaine.
Cinerama.